Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up. It's good at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle, and Lenny Wilkins leads the four. And for the second time today, the visiting team has won.
Bonjour à tous, bienvenue sur Money Time, il est 19h précise à peu près. Hein. Money Time, c'est votre émission basket sur Graphite, dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange, on décrypte la culture basket sous toutes ses formes et dans laquelle on explore des dimensions parallèles étonnantes, dans lesquelles par exemple Wembanyama joue à l'intérieur, Joel Embiid a des genoux, Gobert des moves en attaque et Doc Rivers un plan de jeu pour son équipe. Money Time a aussi sa page Facebook, hein, qu'on vous invite à découvrir et à aimer, comme disent les membres de l'Académie française.
Joystar, bonsoir, vous avez l'air en forme, comment ça va, vous sortez de prison là?
Si c'est pour des questions comme ça, j'ai autre chose à foutre, ça arrive, vas-y, ouais. Vas-y, on quitte des vrais trucs, c'est bien, moi j'aime bien l'accident en plus.
Ouais. Tu auras traduit par toi-même, j'aime bien l'accident, ça veut dire tu vas saigner du pif, t'es conscient de ça.
Dites-moi Joystar, ça fait longtemps que vous n'avez pas frappé une hôtesse de l'air, vous prenez le train ou quoi?
Non, ça me manque.
Comment va votre singe, ouais?
C'était pas le mien.
Oui, vous avez reconnu alors la thématique de l'émission aujourd'hui, hein, chez Money Time, on n'aime pas le consensus plutôt, je voudrais dire, et on n'aime pas la routine. Du coup, on a pensé une émission spéciale polémique dans laquelle on va vous proposer de débattre avec une équipe d'avocats véreux de questions sensibles relatives au basket. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, hein, l'actu fraîche, les matchs de la nuit qu'on va débriefer un peu, une nouvelle rubrique Neuroleague avec Baptiste qui va nous parler justement de la Ligue élite européenne. Bruno Way, la rubrique de Bruno dans laquelle Bruno pousse son coup de gueule habituel. Le buzzer beater sur la question du jour, la NBA, est-ce que c'était mieux avant? Et puis en transition avec l'émission Can You Dig It de Rémi, la rubrique Sneaker Pimps. Aujourd'hui on parlera de la basket mythique d'Hakeem Olajuwon. Oui, il y en a qui vont être contents.
Oui.
Donc, messieurs, bonjour à tous. Tout le monde va bien?
Salut les potos.
Salut tout le monde.
Alors, pour faire les présentations de ceux qui sont autour de cette table, il est hargneux, foncièrement méchant et parfaitement représentatif du français moyen qui se plaint tout le temps. Et comme on ne l'a pas nourri depuis 3 jours, ça va saigner. Bienvenue Bruno. Il y avait un piège.
Oh, la feinte.
Ouais, ouais. Je croyais que c'était Mehdi, mais non.
Salut. Ma gauche, il a crossé ma droite.
Ouais, exactement. Allez, tout le monde a marché.
Ouais. Pété des chevilles.
Il a tout vu, tout connu. Il a la science infuse et un avis sur tout et n'importe quoi. Il est plus clivant qu'un Jean-Pierre Mocky. De plus mauvaise foi que Jean-Michel Aulas, voici Baptiste.
Qu'est-ce que ça va être pour Mehdi?
Justement, quand il tient le score à l'entraînement, tu es sûr de perdre. Il ne fait jamais faute quand il t'arrache un bras, mais il se roule par terre et crie à l'attentat si tu lui piques la balle des mains. Welcome Mehdi.
C'est une belle présentation ça.
Homme de polémique, il arrive autant à créer un consensus que Michel Barnier à valider son budget. Sa langue est plus acérée qu'un poignard, son shoot l'est autant qu'un couteau à beurre. Salut Buffa.
Un couteau à beurre, merci.
Et puis on a aussi l'homme qui parlait à l'oreille des chaussures, un représentant du basket à la Fashion Week. Rémi nous rejoindra en fin d'émission, donc voilà. Et évidemment avec toute l'humilité qui le caractérise, humilité qui n'est plus à prouver, hein, un don de soi permanent, une lucidité chirurgicale et un talent inné. Pour la tête pensante de cette équipe, merci à WAM d'avoir accepté ma propre invitation. Merci.
Merci.
Merci. On commence tout de suite cette émission avec notre première rubrique, la rubrique Actu. Not a game. messieurs, dans l'actu du basket cette semaine, on commence par un sujet qui revient, qui est récurrent, les blessures, encore les blessures, toujours les blessures. À ce rythme effrayant, les effectifs des 30 franchises NBA ressembleront à ceux de leur filiale de G-League en avril. Donc calendrier infernal, intensité des matchs, facture des étés olympiques. Durant, Morant, Derwent Emery, McCollum, enfin à peu près tout l'effectif des Pelicans de toute façon. Banquero, Maxi et les habitués, hein, Zion, Butler, Embiid, Porzingis, Bill et Leonard, on en a d'autres. Hein. On se demande si le All-Star Game ne va pas sourire à Valanciunas, Cam Thomas, voire même Jordan Poole. Pardon, c'est pour Manu. Et Kyle Kuzma. Alors, que faut-il faire pour stopper l'hécatombe ? Transférer le championnat sur NBA 2K, autoriser le déambulateur en match. Passons au handi-basket directement. Messieurs, vous avez un avis ?
Bah, peut-être enlever 10 matchs, il faudrait.
On a déjà parlé.
Saison, une saison à 72 matchs. Et le problème, ils ont parlé cette semaine là, sur NBA Extra. Alors, je ne sais pas si c'était dans l'émission ou sur le podcast, mais en fait, Jacques Monclar a exposé ça en disant que les mecs, maintenant, c'est des bêtes de course. Ils ont des meilleurs terrains, des meilleures godasses. Physiquement, ils sont au taquet. Ouais, ouais. Donc forcément, si tu joues et puis que tu t'investis dans le jeu,
c'est le syndrome de la Ferrari, c'est ça ? C'est mécaniques trop précises.
Le souci, c'est que la NBA aussi, elle fait vachement attention quand tu laisses trop de stars sur le banc et autres. Avant, il y avait des rotations, ça passait un peu inaperçu dès que tu partais un peu en road trip. Bon, les stars, ils jouaient un match sur deux, ils ne se présentaient pas dans toutes les salles.
Il y a de l'argent en jeu, quoi.
Ouais,
c'est vrai qu'il y a eu
en jeu.
Il y a la jurisprudence, Popovic avec les Spurs, là où il avait benché Duncan, Parker et Ginobili, je crois, le même soir.
Sur le même match,
Sur le même match.
Qui passait
en télé nationale.
Ouais, c'est vrai qu'on... Bon, alors, on a déjà parlé du public, des gens qui payent leur place, des droits télé qui sont exorbitants et effectivement qui peuvent exiger qu'on ait des affiches intéressantes. Mais ceci dit, le fait qu'on ait mis depuis la saison dernière une limite de matchs pour pouvoir prétendre aux récompenses individuelles aussi incite aussi les joueurs à jouer, même s'ils ne sont pas totalement rétablis. Je ne sais pas si vous avez vu jouer Embiid, mais Embiid, clairement, il joue blessé, là, non, Baptiste?
Alors clairement, moi je pense que comme Bruno le dit, les saisons sont très longues. Il y a eu quand même les Jeux Olympiques entre deux.
Ouais, c'est vrai que ça.
Un temps très court de récupération. Ils enchaînent quand même en moyenne 3, 4, 5 matchs par semaine, comme dit Mehdi, avec des road trips des fois.
Et des intensités.
Ouais, là, tu prends l'avion. Qui avait été interviewé où il venait d'arriver dans sa chambre, il était 3h du matin et jouait à 20h le soir.
Rizaché aussi qui expliquait ça. Il disait que le rythme, c'était. Enfin, s'habituer au rythme de la NBA, c'est déjà un truc à part. Enfin, tu pars, tu finis ton match, à 2h du mat, tu arrives à l'hôtel. Le temps avec l'adrénaline.
Ouais,
tout
des fois,
ça.
Tu rejoues le lendemain, c'est ça.
Tu t'endors à 4h du match.
24 heures de récup.
Ils dorment un petit peu. Et puis après, t'enchaînes sur un autre match.
Bah d'ailleurs, les équipes ne s'entraînent pas. Hein. Je veux dire, en NBA, elles ne s'entraînent pas pendant la saison. La saison régulière, enfin, le training camp, il est important parce qu'on pose des systèmes, etc. Mais
c'est sûr que Milwaukee ne s'entraîne pas en ce moment. Moi, je pense qu'ils sont en mode entraînement.
Bah, ils devraient, en tout cas. Hein. Mais toujours est-il qu'on a cette question qui se pose de plus en plus. Et puis finalement, ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on n'est qu'au début de saison. Et en fait, les blessures sont déjà quand même sérieuses. On a Chet Holmgren, hein, j'en ai pas parlé aussi, mais qui s'est blessé.
Ah, mais là, c'est l'investissement. Holmgren, typiquement, c'est le mec, il va au contact, il va au contre.
Tu veux dire que James Harden se blessera jamais?
Il a un peu moins de... Tu vois, le jeu de Holmgren...
Kyle Kuzma est toujours en forme aussi.
Ah ouais, Poole aussi, toi.
Jordan Poole aussi.
Hein, t'es au taquet. Hein.
Ouais, c'est vrai. Bon, on passe à l'actualité suivante. La semaine dernière a été marquée par des performances individuelles dantesques. LeBron qui enchaîne 4 triple-double pour la première fois de sa carrière, à l'âge où nous on penserait plutôt à souscrire une convention obsèque. Giannis a été obligé de poser un match à 60 pions pour écarter des Raptors qui, on est tous d'accord, hein, ressemblent plus à des geckos qu'à des monstres du Jurassique cette année. Hein,
oui.
Obligé d'en mettre 60. Je vous parle de De'Aaron Fox qui en met 109 en 24 heures, Wemby qui en claque 50, sans parler de Jokic qui, avant de prendre une pause pour raison personnelle, en surmenage, faisait avant ça et à lui tout seul les stats de tout l'effectif de Utah Jazz. qu'est-ce qui explique ces perfs? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'on peut encore défendre en NBA, les gars?
L'adversaire, moi, je pense. parce qu'ils font quand même des stats contre des adversaires
en carton.
Faibles. Ouais. Ouais. Mais Fox, voilà, c'était deux soirs où tu shootes, le panier c'est une marmite. Et...
Mais ils perdent les deux matchs en plus, non?
Non, je crois qu'ils
ont gagné. Ils ont gagné.
Soit que vous mettez 60, ils perdent.
Ouais. 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 L'autre c'est 49.
Puis... Après, je pense que LeBron, il a changé son jeu aussi. À 40 ans, on n'est plus ce qu'on était, on peut en parler. Donc je pense que les triple-doubles, il va plus les enchaîner cette année que tout ce qu'il a enchaîné.
Ah ouais, toi ouais. Tu vois ça, hein, tu vois LeBron de plus. C'est vrai qu'il est
plus sur la passe, plus au rebond, ouais. Moins sur le scoring. Sur
le scoring. Il y a une grande différence cette année, c'est qu'il a quand même deux mecs qui mettent dedans quand on leur fait des passes,
ouais.
Ce qui lui change pas mal par rapport à l'année dernière.
Et puis il est quand même toujours meilleur au shoot, quoi. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est un truc, tu peux progresser toute ta carrière. Lui, il a fait que progresser au shoot aussi, LeBron, quasiment à 3 points. Quoi.
Non, mais mon frère le disait cette semaine qu'en vieillissant, on s'améliore au shoot.
Ah ouais, ouais.
C'est pas toujours vrai.
C'est tout le monde.
Ouais, mais attends, Batum, dans la même interview là, que tu citais tout à l'heure, le gars, il explique qu'il shoot 1500 fois par semaine. Enfin, il a une routine. Ou tous les jours,
faut. Je suis pas sûr que si je shoot 1500 fois par semaine, ça va aller mieux.
Et puis, il faut expliquer aussi que les mecs, quand il y a aucune opposition à vide, enfin, je sais pas, ils sont à 99%.
Oui, oui, ouais, c'est ça
réussi, quoi.
Bon, tu les vois, l'échauffement. Ouais. Moi, j'ai vu. Enfin, au JO, vous avez vu les équipes s'échauffer.
Ouais, ouais.
Tu vois, Team USC s'échauffer.
Il rentre tout.
Durant, il rentre. Il rate deux shoots durant l'échauffement. Donc c'est...
Après l'échauffement, il change le filet, de toute façon.
Ouais, c'est vrai, en général. Ouais. Ouais, c'est vrai. La dernière actu basket, c'est le lancement d'un concours, puisque c'est bientôt Noël, et je ne sais pas vous, mais nous, chez Money Time, on aime bien les cadeaux, et du coup, on a décidé de créer le concours Money Time Gift. Alors, le principe, c'est si vous avez liké la page Facebook de l'émission du jour, hein, celle du 20 novembre, aujourd'hui, eh bien, un tirage au sort en fin d'émission vous permet de gagner un des cadeaux offerts par la marque Mitchell & Ness, qui est notre partenaire NBA, enfin qui est partenaire de la NBA, mais du coup qui devient notre partenaire aussi, spécialiste des rééditions de maillots vintage. Alors aujourd'hui, on vous offre un cadeau magnifique, une superbe surchemise en velours côtelé, et ouais, des Houston Rockets, que vous pouvez consulter sur le site, hein, elle est en commentaire, vous verrez des images. Le tirage au sort aura lieu en fin d'émission, donc voilà, si vous pouvez encore, vous inscrire en direct en allant liker la page de Money Time.
Ah, si on commence à faire des cadeaux, Fun Radio, tiens-toi bien, on
ouais,
arrive.
Ah oui, ah oui, puis c'est du lourd, les cadeaux sont beaux. Hein. Donc voilà, donc c'était notre rubrique actu, on peut passer directement au match de la nuit. The second, it's a two-point lead for the Warriors. Heat need a three to win. 10 seconds left. Wade against Iguodala. 5 seconds left. Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bank it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami. 126 to 125. It just happened. Les matchs de la nuit, alors vous le savez sans doute, hein, la NBA depuis la saison dernière a lancé son In-Season Tournament, hein, une espèce de tournoi voilà, il est, éliminatoire, alors qui n'est pas tout de suite éliminatoire, hein, par phase de poule, et puis après les meilleures équipes sont qualifiées, sans rajouter de matchs à saison régulière. C'est quand même bien pensé cette histoire. Et hier, donc, on était sur la suite du In-Tournament, deuxième journée, si je ne dis pas de bêtises.
Après, ils n'ont pas tous le même nombre de matchs. Il hein. Y en a qui ont déjà fait deux, d'autres qui en ont qu'un.
Voilà, c'est pour ça qu'on fera pas de points sur le classement, parce que ça n'a pas encore trop de sens.
Non, mais ça va aller vite, hein, parce ouais. Que les quarts de finale, c'est le 10 décembre, ouais, donc ça, ouais. Ça va aller très vite.
Ouais. Bah oui, à raison de deux matchs, je crois, par semaine, ouais. ça va aller très vite.
C'est des poules de 5, donc t'as vite fait le tour. Hein.
Ouais. L'année dernière, pour info, est-ce que vous vous souvenez de l'équipe qui avait gagné ?
Lakers.
Ouais.
Voilà, les Lakers.
Contre Indiana, c'est ça. En finale.
Exactement.
Et les Lakers n'ont jamais perdu dans cette compétition.
Oui.
Ever.
Puisqu'ils ont encore gagné. Ouais.
Jeune compétition.
C'est jeune compétition, ouais. Alors, il y avait un match qui retenait un petit peu l'attention de tout le monde cette nuit. Je pense que Bruno ne va pas nous contredire. On attendait avec impatience le choc entre Cleveland, qui sortait quand même sortait de 15 victoires consécutives. Meilleur démarrage, deuxième meilleur démarrage égalé, je crois, si je dis
De la franchise
ouais. Ouais. Non, all-time.
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 Avec les Warriors.
Ouais, les Warriors avaient fait 25, je crois, si je dis pas de
bêtises. L'année où ils en font 73. Ouais.
Mais performance incroyable. Et puis derrière, sur le calendrier, ça tombait bien. C'était le champion.
C'est ça.
Et on imaginait bien que Boston allait avoir envie de se sortir les doigts pour faire.
Ils ont mis une croix, je pense. Ils ont mis une croix sur ce match.
Derek White l'a annoncé. Hein. Il a dit oui, bon, c'est vrai. On avait regardé le calendrier, on avait envie de gagner. Et donc, match au couteau, puisque score Boston s'impose, c'était au TD Garden, 120 à 117. Messieurs, un commentaire sur ce match que vous avez suivi, regardé peut-être ou, juste...
Le résumé, pour
moi. Résumé aussi.
Résumé. Ouais. À Boston, ils ont sorti l'artillerie lourde tout de suite. Ils font 22 sur...
14 sur 22 sur 40... à 3 points, je crois.
Non, c'est 22 sur 41. Ah, en première mi-temps.
En première mi-temps, oui.
Mais
oui,
le total, c'est 22 sur 41. C'est... Oui. C'est une... Enfin,
la moitié de leur tir.
Ils ont inondé à 3 points, puis quand ça rentre, eh ben, c'est un sport d'adresse. Hein, donc, alors, et à un moment dans le match, ils sont à plus 21. Alors, ils finissent qu'à plus 3, mais à un moment, ils sont à plus 21.
Oui, alors, il y a eu un gros run de Cleveland qui ne s'est pas démobilisé.
Mais quand il y a des rotations à Boston... Tout à l'heure, on parlait de blessures. Va pas falloir qu'il y en ait trop qui se blessent à Boston parce que le banc.
Porzingis va revenir en décembre.
Porzingis va revenir, en tout cas, à l'heure forte, fait un super intérim. Hein. Cette nuit, à 37 ans, je crois, si je dis pas bêtise, 20 points. C'est trop beau.
Même Pritchard, il est impressionnant.
Ouais, mais voilà, tu as dit le banc qui. Ouais. Le banc, quoi. Voilà, c'est ça.
Après, ouais, il y a Keita qui monte aussi le nez, et Sam Hauser. Enfin, c'est quand même. Le banc de Boston, même si c'est pas des joueurs forcément, ils font pas tous rêver, mais c'est quand même des cols bleus, des joueurs
Sam
qui apportent.
Sam Hauser aussi.
Sam Hauser.
Tu sais que Boston, j'ai regardé quand même les tableaux, ils jouent à 8 hein, cette nuit. Il y en a pas d'autres qui rentrent. Hein.
Bah, tu remarqueras, donc, parce qu'on peut faire le commentaire du coup. On peut parler aussi. Non, mais on peut parler aussi de New York sur les derniers matchs. Mais je me suis amusé à regarder un petit peu. Thibodeau est déjà en mode surexploitation de ses joueurs. Ouais, ils sont tous à 40 minutes.
Déjà en mode playoff,
c'est dingue ça. Alors que, a priori, si on ne dit pas de conneries, les playoffs sont au mois d'avril. Quoi. Donc,
Puis il a du bon cette année en plus.
Il y a quand même,
normalement, il a quand même de quoi faire tourner. Quoi.
Visiblement, pas suffisamment à son goût. Quoi, puisque...
C'est qui ? C'est Paco Mdadier qui est là-bas ?
Ouais, qui a fait un bon match. Ouais, qui a fait un bon match.
Il a du mal à gratter des minutes. Hein.
Non, mais c'est pas le genre de coach qui laisse.
Non, c'est
ça le problème.
Il n'est pas connu pour développer ses joueurs.
C'est ça. Ah, mais le souci, c'est que dans son effectif, il a 40 Tonyton. Enfin, tu sais très bien que s'il joue toutes ses minutes, arrivé à un moment, ça va lâcher. Enfin, le gars, la moitié de sa carrière, il a eu des blessures durant les saisons. Ça ne changera pas. Et moi, j'ai peur de ça à New York, c'est qu'il y a vraiment un gros joueur qui se pète.
Oui. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Hein. Alors, ça ne les a pas empêchés de faire un gros run, mais Randle n'était pas là. Qu'est-ce qui se serait passé si Randle avait été là en play-off ? Bon, on va pas réécrire l'histoire, hein, mais en tout cas, Randle s'est fait plaisir cette semaine, hein, puisque il a claqué quand même 35 points, je crois, le shoot de la,
de la victoire.
Ouais. Je suis de plus en plus sûr que Minnesota a gagné le
contre,
trade.
Phoenix.
Contre Phoenix, ouais, exactement. Ouais. Prime. En prime time.
Avec une petite. Alors, est-ce qu'il y a faute ou il n'y a pas faute sur son shoot, Randle?
Il y a faute, puis il y a surtout marché. Mais, quoi. Ouais. Le mec, il s'arrête, il saute et
Tatum.
Il ressaute après.
Tatum, son non, shoot mais
sur,
fait aussi.
Sur Randle, il y a un marché.
Après, l'autre, c'est vrai que le défenseur, il...
Il y a un peu de flopping.
Il part loin et vite, quoi.
Ok, si je vous parle des matchs suivants, si je vous dis que Brooklyn-Charlotte, tout le monde s'en fout, vous me répondez ?
Moi, je suis pas d'accord, parce que Charlotte, ça joue vachement bien. Alors, ils perdent tout le temps, mais c'est une équipe qui fait plaisir à voir.
Ah, puis la Melo Ball,
il est extraordinaire.
Beau à jouer, lui.
En tout cas, Brooklyn fait, il s'impose 116-115 d'un petit point, mais Brooklyn n'est pas si mauvais que ça. Moi, je les attendais bien pire que ça, Brooklyn.
Oh, bah, je pense que le coach y est pour beaucoup.
Ouais, enfin, ils ont quand même déclaré que tout le monde était transférable.
Oui, bah oui.
C'est bien. Ça, c'est bien Brooklyn, pour mobiliser ton vestiaire. De... Vous êtes tous transférables, les gars. Bon, peut-être que c'est ce qui les pousse. Hein. Grosse surprise aussi, Denver qui bat Memphis à Memphis, sans Jokic, sans Aaron Gordon.
Mais pas Morant non plus.
Sans Morant de l'autre côté.
Alors, sans Morant de l'autre côté, mais ben, quand même, quoi. Je trouve qu'on n'attendait pas forcément. Denver à pareille fête, moi je sais pas en vous, mais
bah, je crois que début de saison m'inquiétait. Zakidi, il est quand même sous-estimé aussi, je trouve, ce mec-là. Enfin, il a été drafté assez haut et.
Ah, justement, trop... il a été drafté
un peu trop.
Moi, je croyais beaucoup en lui. Et... Ouais. Non, après, à Denver, Jamal Murray a quand même montré que ça restait quand même un bon joueur de basket. Ouais. Et c'est bien. Puis Westbrook. On va quand même en parler et qui sort un triple, son 200e triple double. Ouais. Et ils ont fait un super match. Ils ont été bien collectifs. C'était chouette de regarder ça cette nuit.
En tout cas, il y a une équipe qui s'est fait plaisir aussi. C'est Dallas contre la Nouvelle-Orléans. Alors la Nouvelle-Orléans, ils sont complètement.
C'est la loose. C'est la franchise de la loose.
Il y a deux équipes quand même entre la Nouvelle-Orléans à l'ouest et Washington à l'est.
La 132-91. 41.
Portland n'est pas mal non plus.
Ouais, mais ils ont gagné quelques matchs.
Des matchs hein. Bon, ils aiment bien jouer contre. Qu'est-ce qui a perdu deux fois contre Portland? Bah, c'est Minnesota.
Deux fois, ils se sont fait taper. Bon, ça devrait se réguler au fur et à mesure de la saison, je pense. Mais Buffa, t'as un truc à. Une remarque à faire.
Écoute attentivement. Ouais. Voilà, j'ai suivi quelques résumés, mais les matchs plus importants, en effet. Boston, je suis voilà, mais ouais. Allez-y les gars.
Bah donc du coup le San Antonio qui est ici
spectateur, je suis bien en place.
Non même San Antonio qui gagne. Ah ouais. Ouais. Wemby,
alors il y avait pas, on nous vendait le duel Holmgren Wemby, puis en fait ni l'un ni l'autre jouait, mais San Antonio s'est imposé 110-104.
Mais tu vois les limites d'un effectif comme OKC, Hartenstein qui est pas prêt. Jalen Williams qui joue intérieur. Quoi.
Ils ont plus d'intérieur.
Il fait 2m2 ou 2m3.
Ils sont courts.
Ils se font bouffer à l'intérieur. Ça.
Ouais, c'est... Ouais, c'est petit. Hein. Et ça, au bout d'un moment, ça trouve ses limites aussi. Hein. Ouais, quand tu vois un Anthony Davis ou un Jokic,
ah bah ouais, un vrai pivot de métier.
S'ils sont pas trop bêtes, tes coéquipiers te filent la balle à l'intérieur. Et puis les Lakers qui ont souffert, mais qui ont battu Utah. Utah qui s'accroche hein, sur quelques matchs. 124-118 pour les Lakers, avec un rookie qui commence à faire sacrément pareil.
Comment tu le prononces ?
Connect, visiblement.
Connect.
Dalton.
Dalton qui claque 37 points, si je ne dis pas de bêtises.
Et c'est un peu la surprise.
Ouais, carrément. Mais il manquait des shooters aux Lakers.
Il n'est pas passé par la draft en plus, je crois, c'est ça, non ? Il n'a pas.
Ouais, ou tard, enfin, vachement.
Tard, ouais.
Brony a dû lui piquer un peu de.
Non, parce qu'il a pris 17ème.
Non, ça c'était pour
le. Je savais que c'était un mauvais
angle. Après, Utah a quand même fait le choix de faire une prise à deux et sur Davis et sur LeBron.
Quand tu sais qu'on joue à 5,
un peu de place.
Quand tu sais que tu joues à 5, alors il ne reste plus grand monde.
Puis Utah, il y a des oublis défensifs.
Bah, il y a des oublis tout court. Il n'y a pas que des oublis défensifs. Hein.
Il a mis 4 paniers, il a coupé ligne de fond, il s'est retrouvé tout seul dans la raquette. C'est quand même plus facile de jouer au basket.
Je pensais pas qu'il y aurait un effet Gigi Redick comme ça, quoi, aux Lakers.
Oui.
Que ça
prenne.
Ouais, que ça prenne comme ça.
Je sais pas. Bah, tant qu'ils auront D'Angelo Russell sur le banc.
Voilà. Lui, c'est vraiment.
Ouais. Ouais. On parlait des joueurs surcotés. Ah, on fera une émission spéciale joueurs surcotés.
Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit.
Il l'avait mis en numéro 1, je crois.
Et à chaque fois qu'il est allé quelque part, c'est la merde. Quoi. Ouais.
Ils se sont bien lâchés. Hein, c'est vrai. Je vous invite à aller voir. On mettra le lien sur Facebook de la spéciale top 10 des joueurs les plus surcotés. J'étais pas très content, ils ont mis Tyler Herro en 3ème.
Ah, Tyler, c'est un peu vrai aussi.
Ouais,
mais Tyler Herro, on leur propose, Miami, on leur propose Damien Lillard.
J'en veux plus, moi.
Ah non, Lillard, on garde quand même Tyler Herro. Bah. Bah,
il est jeune, Tyler Herro. Ouais, je les ai trouvés un peu violents avec Tyler.
Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout et ils ont mis Paul George ou pas?
Ah oui, ils l'ont mis.
Ah bah oui, moi je suis d'accord. Exactement.
Ouais, ils t'ont écouté.
Ah bah.
T'as un petit joueur comme ça, surcoté, qui te vient en tête, Baptiste?
Non, pas spécialement. Mais...
Ou un chroniqueur sur côté.
Sur chronique.
Chroniqueur sur côté autour de cette table.
Ah, j'ai des noms, moi.
Vas-y, alors. On vous invite à répondre sur Facebook si vous le mettez. Ouais, je crois qu'il est temps de faire une petite pause musicale. Allez, on écoute un petit morceau de Massive Attack.
Ouh.
C'est bon, ça.
Let you know, see, rocking in your area, rock beneath your balcony. My baby just cares for me. Well, that's funny. Her touch tickles, especially on my tummy.
Now who's got the microphone?
Now who's honey?
It's Turbo Turbo and Charge, you a charge. I need a DGY lunch crew and large. Don't call me an officer, just call me a Sarge. Mashing up the country town and also abroad. Plan to go to America when I get a Visa card.
But getting a Visa card nowadays isn't hard.
So keep your ears peeled, I'll listen to every card. Tokyo City's one place that we told. Four technique plus two mixer balls. Yes. Sharper than a Wilkerson razor sword.
When I was a child, I played some Studio One. My table then I graduate to Studio One. Cause these my nom de plume, you know, but three's my pseudonym. And around my neck, you know, I wear the Sony Budokan. Indigo blue sugar, me in my own shoes. The people dancing in the shade for what they made, they can't lose. Yes, wax and lyrical, the time is not satirical. It's kind of spherical, so jam me in a circle. This is the miracle, I'm end up in the selection.
So whether you're black or white or half cast in your complexion.
Yes, pull out your phone or block or tuck you in your phony. It's started by my Coney, assumed by Sony. A summary of wireless, history and only. But massive attacking only. Que nous avons acheté ce matin, ça a été acheté chez un charcutier. Hein. Vous voyez ça? Ah, quand vous haut. Voyez ça, ouais. Alors on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Ça se voit à la couleur. Vous...
Et oui, ce début de saison est marqué par de nombreux sujets de controverse. On ne parle pas du jambon ici, hein, de la qualité du jambon. Les baisses d'audience, le manque d'intérêt de certaines rencontres, une draft 2024 qu'on annonçait comme historiquement faible et qui tient ses promesses dans l'ensemble. Un jeu stéréotypé qui caractérise une saison régulière interminable, seulement coupée par un All-Star Game totalement dénué d'enjeux et au final de spectacle. Bref. Si la NBA se porte bien en tant que label et multinationale, en surfant sur une globalisation tentaculaire et une activité incessante sur les réseaux sociaux, ben on ne peut pas dire que les perspectives qui se dessinent soient particulièrement rassurantes pour les amoureux du basket US. Donc messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup d'éléments de controverses. Si on voulait commencer par lequel?
Mais ils s'en rendent compte, la NBA, qu'il y a des choses qui vont pas. Là, le All-Star Game, ils pensent sérieusement à le reprendre.
Entendu, ça.
J'ai lu qu'ils voulaient faire un espèce de petit demi-finale et une finale.
Ouais. Un truc à élimination directe.
Exactement, avec quatre équipes qui jouerait pareil en demi-finale et une finale.
Et puis l'équipe des rookies qui
serait la meilleure équipe des rookies. Donc ils s'en rendent compte eux-mêmes que ça va pas, mais c'est vrai que le All-Star Game devient complètement inintéressant.
C'est vrai qu'on a déjà parlé plusieurs fois du niveau qui en chute libre. Le Star Game, plus on avance, plus on assiste à des matchs qui ressemblent vraiment à rien.
On parlait des blessures tout à l'heure, c'est ça quoi. L'investissement. Tu peux pas jouer un match où t'as un risque de te blesser, donc tu t'investis pas, donc tu te donnes pas quoi.
En tout cas, c'est vrai que ça vient normalement ponctuer la saison, faire une coupure. on est bien plus attentif aux transferts qui se déroulent avec la deadline en général qu'au spectacle, entre guillemets, si on peut parler de spectacle, de ce qui nous est mis. Mais voilà, alors ça vient se combiner avec effectivement un niveau de jeu, un jeu qui est un peu stéréotypé, on va en reparler un petit peu plus tard, mais bon, on parlait du jeu des Celtics qui balancent
50 shoots. Moyenne, ils sont à 50 shoots.
Ils sont plus de la moitié de leur shoot sont à 3 points depuis le début de saison, les Celtics. Sauf qu'ils tournent avec des pourcentages ahurissants. Ouais. Et on a vu une équipe qui a essayé de faire pareil.
Chicago. Ouais.
Chicago. Donc, sauf que c'était dégueulasse. Ouais, et donc, ils en ont pris 40. Donc,
c'est ça. C'est là toutes les limites. Tu sais que Boston, tu ne peux pas les laisser shooter. Donc, tu avances sur eux. Et après, il y a une place de dingue dans la raquette.
Et ils en profitent parce qu'ils ont des joueurs athlétiques rapides pour pouvoir aller dedans. Donc, c'est vrai que. Est-ce que c'est. Il n'y a pas une formule magique à trouver quand même.
Mais c'est vrai que des fois, ce n'est pas très agréable. Quand tu vois sur 5 allers-retours, il y a 4 shoots à 3 points. Ouais.
Moi, je sais pas vous.
Il
n'y
a pas de jeu placé. Moi, j'aime bien, tu vois, le jeu de Houston cette année qui shoot aussi beaucoup à 3 points. Mais il y a Sengun, tu vois, à l'intérieur.
La balle passe par lui.
Et tu as l'impression qu'ils jouent un peu plus à l'ancienne que les autres équipes. Ils savent mettre le ballon à l'intérieur pour le ressortir. Ouais. Et quand ça vient pas aider à l'intérieur, Sengun va jouer son 1 contre 1. Ouais. J'aime bien cette équipe de Houston.
Elle est pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est une des bonnes surprises de la saison. En tout cas,
L'équipe qui a tout changé dans la NBA, c'est les Warriors.
Ah oui, c'est les Warriors.
Ils se sont mis avec les Splash Brothers quand ils ont commencé à jouer à 3 points. Tout le monde essaye d'imiter. Alors que je pense que chaque équipe devrait jouer avec ses forces. Tu vois, on parlait de Philadelphie, quand tu vois qu'Embiid, il prend aussi des shoots à 3 points. T'as envie de lui dire arrête, gros. Putain,
et là, c'est là qu'on voit qu'il est...
La question, c'est est-ce que Embiid, il prend des shoots à 3 points parce qu'il ne peut plus vraiment jouer à l'intérieur.
Là, ça s'est vu, le dernier match, il n'ose pas aller au contact. Il reste à mi-distance ou il va à 3 points, c'est parce qu'il ne veut plus aller dedans. Quoi.
Puisqu'on parle de polémique, vous avez entendu un petit peu, non ? Celle de Tyrese Maxey qui est.
Ouais.
Il l'a remis en place.
Ouais. Hein. Tyrese Maxey qui est quand même un pote d'Embiid en disant ce serait bien qu'il vienne à l'heure aux entraînements déjà.
C'est à la réunion, ils se sont fait battre par. Miami. Ouais. Et juste après, ils ont fait une réunion.
Les équipes, ils vont gagner là-bas. Quoi.
Alors ça, j'ai pas apprécié du tout cette phrase.
Ouais. Non, mais oui, après la réunion.
Butler a sorti son match quand même.
Butler, ouais, qui revient d'une énième blessure.
Changer de coiffure.
Et profiter, c'est un des 8 dans l'année. Donc,
Bon, il a fait un 30-10.
Ouais. 30-10-5. Avec une très belle adresse.
Propre.
Non, mais c'est bien. Non, alors. Parmi les autres sujets de controverse, on parlait de la QV rookie qui est quand même très très faible. Est-ce que vous savez qui est le meilleur marqueur des rookies cette année ?
Ah ouais.
Allez, petit quiz là, vite fait.
C'est pas le Warriors là ?
Non.
Le Warriors ?
Non, il a 9 points de moyenne, un peu plus.
Risacher est deuxième, non ?
Risacher est bien deuxième, avec 12 points de moyenne. Pour un numéro 1 de draft, on peut dire que c'est pas énorme.
Ouais, c'est pas mal quand même.
C'est Jared McCain, le joueur des Sixers, qui profite du désert actuellement traversé par les Sixers pour marquer des points. Il est à 15 points de moyenne. Et c'est vrai que ça interpelle parce qu'on savait que la QV serait faible. Le troisième rookie qui marque le plus, c'est Jalen Wells, à Memphis, avec 11,5. Zach Edey est à 11,1. Et puis après, à part Bob Carrington de Washington qui joue quand même 30 minutes par match et qui affiche 10 points de moyenne, tout le reste est en dessous de 10 points. Et parmi ces joueurs, on a quand même des gars qui. Alors, on savait qu'il y a beaucoup de prospects, c'est-à-dire des joueurs qui doivent se développer. Mais Alex Sarr, vous avez vu les stats d'Alex Sarr pour l'instant ?
C'est famélique, ouais.
C'est 9,8 points de moyenne avec Sarr en 26 minutes de temps de jeu à peu près, 35% au shoot. Et alors, on a beaucoup parlé, mis en avant nos Français en NBA cette année, le nombre de Français. Mais en fait, quand on regarde les rookies français et quand on regarde d'autres joueurs français, on peut pas s'empêcher de s'inquiéter sur le niveau quand même qui est
le début,
par rapport à leur place dans la
première saison. C'est leur première saison.
Est-ce que c'est le niveau vraiment ?
C'est le premier. Enfin, ils ont que un an ou deux ans pour la majorité. Ouais. Laisse-les grandir.
C'est ça.
Laissez le temps. Ils ont des temps de jeu aussi, quoi. Parce qu'ils n'ont pas tous des temps de jeu.
Des numéros 1 de draft à 12 points de moyenne, il faut remonter très très loin pour prendre un.
Ouais, mais moi je trouve qu'il est bon quand même, son début de saison.
Risacher. Il gagne un peu en régularité, je suis d'accord. Je me fais l'avocat du diable, je les charge un petit peu tout ça, mais.
Je pense, on a compris ça.
Ouais.
Ça change bien. Avec Trae Young, ça joue bien. Enfin, c'est pas mal. Ouais, Atlanta, c'est pas si dégueu.
Je pense qu'il y a aussi cette adaptation à. Basket américain, entre guillemets.
Ce qu'on disait tout à l'heure sur les déplacements, le rythme.
Il n'était pas attendu comme la première option non plus en même temps. Donc
Après, Sarr, c'est pareil, c'est un gros défenseur. Je crois qu'il est le troisième meilleur contreur pour l'instant.
Ouais, je crois qu'il
ça, baisse, ça doit être Wemby premier et je crois qu'il doit être troisième. Donc...
Il est à deux comptes de moyenne.
Ouais,
mais c'est en train de diminuer et puis c'est surtout qu'en fait le problème
son temps de jeu diminue donc
il dévisse de plus en plus aussi. Washington se prend des branlées en fait. Le meilleur français, si on revient vite fait, enfin un point très rapide sur les français, mais c'est Koulibaly qui s'en sort le mieux pour l'instant et encore dans une équipe quand même où c'est vraiment des quiches. Il est à 14,8 points de moyenne,
mais
des bons pourcentages au shoot.
C'est que c'est pas lui le prochain, l'avenir de la franchise, quoi. Ils vont peut-être virer les deux autres là. Et le franchise player, ce sera peut-être Koulibaly.
Pourquoi pas.
Ouais, celui qui était beaucoup attendu, c'est celui de Charlotte.
Jan Salon. Et lui, c'est une catastrophe.
Il y en a un autre, il y a quoi ? C'est pas Diabaté qui a...
Oui, Jan Salon, il a 3 points de moyenne à 26% au shoot.
Ah, alors que lui, il était attendu.
Mais ça, c'est mystérieux.
Il joue pas beaucoup. Hein,
ouais, ils le font jouer en pré-saison, ils le font jouer avant. Et le coach disait qu'il allait le faire jouer. Et puis, depuis que la saison a commencé,
Après, il y a Brandon Miller à son poste. Il n'y a pas une place de titulaire à prendre. Il y a Miles Bridges en ailier fort. Donc Salone, il est assez athlétique comme mec, mais c'est dur de trouver sa place. Par contre, c'est le Français Moussa Diabaté qui est à Charlotte. Donc,
il est en train de faire sa place. Hein,
tout doucement.
L'intérieur.
Il rentre.
Il n'y a pas beaucoup d'intérieur non plus à Charlotte.
Non, c'est vrai.
Et Ousmane Dieng, il joue pas plus avec l'absence de Holmgren.
Il joue pas beaucoup plus.
Je pensais qu'il aurait plus de minutes quand même.
Ouais, mais t'as raison, c'est pas top. Nos Français, c'est pas top.
C'est pas super, c'est vrai, clairement. Hein,
Soyons pas défaitistes.
Exactement. Du coup, on va aller en Europe, faire un tour en Europe. Allez, c'est parti. Alors, laisse démarrer la musique, c'est trop bon ça. Bouge tes cheveux, Bruno. Bon, alors avec Baptiste, on va se pencher sur l'Euroleague pour découvrir un autre basket. Quoique, Baptiste, on t'écoute. Tu vas nous parler un petit peu de ce championnat élite en Europe qui...
C'est vrai que l'Euroleague, on en parle de plus en plus. C'est quelque chose qui commence à faire son bonhomme de chemin. Pour vous situer, qu'est-ce que l'Euroleague déjà ? Parce que pour la plupart, je pense qu'on a un peu ce stéréotype de Champions League du basket, alors que c'est complètement faux. En fait, c'est carrément sur le modèle de la NBA, parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont 18 clubs. C'est vraiment tiré, on va dire, c'est toujours les mêmes équipes qui jouent.
C'est pas une ligue fermée.
C'est pas fermé, c'est un système de je crois qu'il y a des équipes qui prennent des contrats sur 3 ou 4 ans. Et après, il y en a qui ont des contrats d'un an, en fait. Ils appellent ça des wildcards. Qui arrivent et selon les résultats qu'ils font, soit qu'ils restent ou soit qu'ils ressortent. Mais c'est une ligue privée qui n'a rien à voir avec la Fédération internationale de basket. C'est vraiment des propriétaires qui gèrent ça. Donc ça, c'est un point commun quand même déjà avec la NBA où on est vraiment sur ce modèle-là, où on a été chercher un peu l'élite du basket européen.
Typiquement, il n'y a pas les joueurs pour l'équipe de France, quoi. Ce week-end, avec le rassemblement, typiquement, ils n'ont pas
ni
Euroleague ni NBA ont laissé les joueurs partir, quoi.
Après sur le système de match, on est un peu aussi sur 2-3 matchs des fois par semaine. Ceux qui jouent l'Euroleague jouent des fois 2 matchs avec un match de championnat. Donc on est sur un rythme aussi qui se rapproche de plus en plus au rythme de la NBA.
Clairement. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que ça pose pas problème au niveau de l'intérêt de justement de passer de l'Euroleague où tu affrontes vraiment les meilleures équipes européennes au championnat ? Ils ont pas du mal parfois à se remobiliser sur ça ?
Je pense que c'est deux compétitions différentes. Après, quand t'as bien démarré, tu vas jouer la compète. Quand tu l'as mal démarré, tu laisses un peu tomber, puis tu vas jouer l'autre. Mmh. Après, je pense que les matchs aussi de championnat français sont un peu moins durs que les matchs d'Euroleague. Mais bon, après, il faut avoir les effectifs aussi. Hein. Paris là, Monaco là.
L'Asvel
aussi.
Un peu plus dur, mais bon, c'est pas...
Ils ont des joueurs pour jouer. Ils n'ont pas de chance. Et qu'il y a quand même des joueurs phares à l'Asvel qui se sont blessés. Et ça va être dur, mais moi j'aime beaucoup l'Euroleague. C'est un autre basket et j'aime bien.
Et si justement, t'écoutes.
Ouais, alors après, c'est un autre basket. On peut ouvrir le débat. Hein. C'est d'abord, un des grands joueurs qui a fait partie des deux, on va dire, des deux championnats, qui est Dirk Nowitzki, qui a quand même été MVP, qui a gagné quand même une finale en 2011, disait alors que le basket américain, c'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Le reste du monde joue en équipe, en fait. C'est un système d'écran, de passe. En NBA, on joue l'isolation. En FIBA, c'est différent. Il faut bouger, s'arranger pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, ça résume un peu aussi le basket aujourd'hui. aujourd'hui, comme on disait, hein, le débat de, aux États-Unis, on shoot à 3 points, on fait du 1 contre 1, on fait... Alors, en basket européen, c'est un peu plus basket à l'ancienne, à NBA, peut-être d'il y a 20 ans, 30 ans, où tout le monde a un rôle un peu important dans l'équipe aussi. Donc,
défini, clairement défini.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais Fournier disait, il était interviewé sur ça, et il disait, mais oui, mais c'est parce que l'Euroleague, si tu leur mets dans Kevin Durant, par exemple, ils vont jouer sur Kevin Durant. C'est juste une question
De potentiel, quoi.
De potentiel des joueurs. D'ailleurs, les joueurs qui partent en Euroleague comme de la NBA, ils font souvent le chemin, comme Fournier, hein, en fin de carrière, ils traversent l'Atlantique pour aller finir en Europe. Ça ne retire rien à la qualité du basket qui est pratiqué, hein, je le précise, parce que on pourrait penser que voilà, c'est des stars déclinantes, etc. Mais je suis convaincu que si tu prends les 5 premiers de l'Euroleague actuellement, que tu les fais jouer les Wizards, ils les défoncent.
Hein. Après, il y a une volonté sportive. Là, tu prends l'exemple de Fournier, il aurait pu signer en NBA pour être, pour être papa des joueurs, encadrer des jeunes.
Ça dépend dans quel projet tu
te. Ouais, là, il a voulu jouer dans un club qui a des moyens et qui.
Après, quand tu dis, là, il y en a un qui a sorti une phrase, alors ça ne va pas plaire à Mehdi, mais Shima Moneke, qui a joué à Monaco, qui joue aujourd'hui à Baskonia, il disait que si les Pistons, qui en ce temps-là étaient la plus mauvaise équipe de NBA, jouaient en Euroleague, ils ne seraient même pas en play-off maximum, donc ils ne seraient même pas dans le top 16. Lui a joué aussi en NBA, donc voilà, après ça ouvre le débat. Alors peut-être pas aujourd'hui Détroit, mais une équipe comme Washington, les Wizards, ou... Voilà, des équipes comme ça aujourd'hui, quand on s'y jouait contre des équipes d'Euroleague bien classées, voilà, quel niveau ils auraient.
Est-ce que l'Euroleague, toi qui suis des NBA Euroleague, est-ce que c'est un jeu qui est quand même moins. Est-ce que le jeu est moins spectaculaire en Euroleague qu'en NBA, objectivement ?
C'est pas du tout le même profil de jeu. Je trouve qu'on est vraiment. Alors les règles sont aussi différentes, hein. Les règles FIBA sont un peu différentes, le temps de jeu est différent, le nombre de fautes est différent, la ligne à 3 points est plus prête, il y a moins de tirs à 3 points peut-être, mais voilà, c'est. Et puis aux États-Unis, on ouvre des règles où c'est fait pour du spectacle, pour, règles du marché, ça a été encore un débat cette semaine sur les paniers de Tatum ou de Randle, où les arbitres disent clairement que dans les 30 dernières secondes, ils ont presque l'interdiction de siffler, en fait. Il faut laisser place au spectacle. Quand le match est serré, on laisse place au spectacle, et voilà, c'est... Donc, il y a une différence entre les deux, mais...
Il y a une différence de salle aussi, d'ambiance. Hein. On va clôturer rapidement sur le sujet, parce qu'on a, malheureusement, le temps tourne très très vite, mais il y a une grosse différence d'ambiance aussi dans la salle. Hein. C'est pas du tout le même public. Hein. On est vraiment sur quasiment une ambiance de foot dans les salles d'Euroleague, alors qu'en NBA, c'est très familial. Et...
Donc... Certains joueurs le disent, hein, ceux qui ont goûté aux deux. Je crois qu'il y en a un qui est arrivé là de NBA, qui est arrivé au Partizan Belgrade. Alors là, on est dans l'extrême. On est dans l'extrême.
Bienvenue en enfer.
Voilà, c'est ça. C'est bienvenue en enfer. C'est ce qu'il dit. La salle, rien que ça, déjà, c'est quand même assez impressionnant.
C'est ce que Jokic dit toujours, quoi. C'est de la blague, quoi. Lui, il a joué en Serbie. La NBA, c'est de la rigolade. C'est ça. Quoi.
Ok. Bon, allez, on te laissera plus de temps pour développer en tout cas l'Euroleague au fur et à mesure des semaines. Mais en tout cas, merci pour.
Mais Paris est toujours dans le top.
Paris est deuxième égalité. 4,
ouais, j'allais dire.
6 victoires de suite, là.
6 victoires de suite, on a alors gagné au Barcelone. Ah ouais, Barcelone, non, c'est des... En plus, avec la manière. Donc,
Monaco est un peu plus en difficulté, d'ailleurs, le coach a été remercié.
Après, ils n'ont pas pris n'importe qui derrière. Là, je crois qu'ils sont sur le sélectionneur de la Grèce. Je crois que c'est ça. Ils ont recruté.
Ouais, quand tu te sépares de ce coach-là, tu en prends. T'as vite un plan B. Bon, allez, on arrête. Parce que Pascal, il nous
agite. Non.
Parce qu'il a, il s'agite. Là, il dit si on gêne.
Pas content.
Et sinon, Monaco...
Bruno, t'es pas content ?
Ouais, mais je me suis même pas chronométré, donc je vais t'exploser encore. J'annonce.
Tu vas devoir réussir ta perte dans la perte du jour.
Je vais parler de Embiid et Antetokounmpo, nos deux amis qui m'ont un peu énervé récemment. Mais bon, alors Embiid, pour rappel, a été drafté en troisième position en 2014. Bon, il commence à jouer qu'en 2016. Il a toujours été considéré un peu comme un joueur fantasque et bon vivant. Et donc, dès février 2018, le Loustic, qu'est-ce qu'il fait ? Avant son match contre les Wizards, il se fait masser les pieds en avalant en toute décontraction un petit hamburger au bord du terrain. Ça avait fait beaucoup jaser à l'époque, mais c'est typiquement à l'image du bonhomme.
T'envoies un message.
La suite de sa carrière va avoir... Ça sera du même acabit, quoi. Yanis, lui, il a été drafté un an plus tard. Bah, le point commun entre les deux, c'est qu'ils sont restés dans leur franchise d'origine pour le moment. Hein, bon, pour le moment.
Fidélité, c'est au moins ça.
Il y en a un qui risque plus de partir plus vite que l'autre.
Ouais. Et puis, bon, lui, Yanis, le dernier coup d'éclat aussi qui m'a énervé, mais c'est là où on voit que c'est un peu un gamin, le Yanis. C'est en décembre 2023 quand ils vont en déplacement chez les Pacers et que les Pacers auraient volé le ballon du match. Et lui, il colle quand même 64 points. Et les gars se barrent avec le ballon. Alors que traditionnellement, en NBA, on donne le ballon au mec qui a collé un gros score. Quoi.
Ils l'ont cherché.
Bon, Indiana, ils ont quand même reparti avec 140 points dans la musette. Titre personnel, il leur a mis 64.
Pas mal.
Et bon, ils ont essayé de voler le ballon et bon, il avait pété un câble, on l'avait vu courir partout.
Et tu sais pourquoi Indiana a voulu prendre le ballon ?
Parce que son rookie...
Oui, le rookie avait mis son premier panier en NBA, donc le ballon va au rookie. Mais c'est connu dans toutes les franchises, donc...
tradition, ouais.
Bah oui.
Mais il était dingue ce jour-là, il avait complètement pété un câble pour son ballon. Alors à la fin, conférence de presse, il dit « Ouais, j'ai un ballon, mais je suis pas sûr que c'est le vrai ballon du match. » Il était tout énervé, le pauvre petit pépère.
C'est un enfant. Ouais.
Mais typiquement...
Non, mais on sait très bien en fait ce qui t'a énervé avec Yanis. Vas-y, balance.
Hein. Je le dirai un peu plus tard. Mais moi, le chaînon manquant, tu vois, entre les deux, Embiid et Yanis, est-ce que ça serait pas le Doc, en fait, Doc Rivers? Parce que ouais, c'est lui qui fait le lien en fait.
Ah, c'est vrai.
Il a quitté la Pennsylvanie là, en 2023 en étant super bon camarade hein, comme Embiid. Vous vous rappelez l'anecdote sur Ben Simmons là ils l'ont ruiné psychologiquement tous les deux là. Alors Doc, il avait déclaré que ça pouvait pas être le meneur de jeu d'une équipe jouant le titre. Et dans la foulée, Embiid, bon camarade, lui toujours un bon camarade, il estimait que l'action où son coéquipier australien refuse le dunk pour puis finalement passer la balle avait été le tournant du match. Bon, depuis, le pauvre gars, il n'ose plus aller au panier. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'était dingue. Il était sous le panier, il pouvait se matcher. Enfin, il a ressorti le ballon, quoi. Il est totalement inhibé, le pote Ben Simmons. Et Doc Rivers, pour savoir, maintenant, il est parti de Philadelphie. Il a quitté Embiid pour retrouver... Notre ami Giannis, qui avait fait virer son coach Adrian Griffin, parce que enfin, pas me faire croire que notre bon Giannis, il était pas au courant qu'ils allaient virer le coach. Et à l'été 2024, là on arrive récemment, sur les polémiques récentes qui ont été un peu plus énervantes, notre ami Embiid, déjà on se demande pourquoi il a fait les JO, quoi. Parce qu'on l'a tous vu à la fin de la saison dernière, il est dans un état physique déplorable, il est quasiment aveugle, enfin il y a un moment c'est dramatique, et le gars va quand même faire les JO. Son bilan c'est quoi? Il fait un gros match contre la Serbie, mais autrement à quoi ça a servi quoi? Juste avoir une médaille d'or?
Oh, c'est pas mal quand même.
Et puis après passer un bel été en France à se faire siffler dans toutes les salles de France, ouais, parce que notre bon monsieur, le franco-américain camerounais là, qui a pris son passeport français, tout ça pour nous lâcher en plein milieu et puis finalement aller voir les États-Unis parce que l'opportuniste était un peu plus là. Et puis le début de saison commence, il est complètement défoncé avec son été. Et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de dire qu'il va pas faire les back-to-back, quoi. Mais c'est quoi cette communication, mon garçon? Le back-to-back, tu dis pas que tu les fais pas.
Tu ne les fais pas, mais
tu fais comme Kawhi, toi, qui était coaché par Nick Nurse à Toronto. Et qu'est-ce qu'il faisait Nick Nurse à Toronto? Il faisait pas jouer les back-to-back à Kawhi, mais il l'a pas dit.
Ben non.
Mais bon, c'est vrai qu'entre le Doc et la Nurse. Il est bien entouré, notre ami Embiid. Il fait que dans la médecine, quoi. Mais ouais, ce qui m'a énervé, c'était notre ami Giannis avec son geste enfantin, là, où il colle un gros vent à Jalen Brown en lui faisant semblant de lui vouloir serrer la main et puis il se frotte les cheveux, là.
Ça, t'as pas supporté, ça.
Ouais, c'est enfantin, quoi.
Ouais, on fait pas ça, un Celtic. Ouais,
Il a dit, Giannis, c'est un gamin. Moi, je me concentre juste sur le fait d'aider l'équipe à gagner. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. En fait, c'est ça là-dessus, il faut s'arrêter. Et puis, la dernière polémique quand même pour signaler notre ami Embiid aussi.
C'est-à-dire qu'il les aime pas. Hein.
Mais il a, avec son histoire. Enfin, l'article était dégueulasse là. Il y a un mec, un insider de la NBA là, qui a sorti un article qui faisait référence au frère mort de Embiid.
Ouais.
Ça, c'était dégueulasse sur la forme, c'était pas à faire quoi. Ouais. Déjà, le mec, je sais pas comment en fait les Sixers continuent à le laisser rentrer. Il a écrit un article de merde. Embiid l'a lu. Et le gars, il a le droit de rentrer dans le stade pour croiser le gars dans les couloirs et risquer de se faire défoncer. Mais bon, ça, je sais pas. Je sais pas comment il fonctionne. Ouais, Mais en fait, il disait clairement que pour être excellent dans son travail, il faut d'abord se présenter à son travail, quoi.
Et tout à fait.
C'est plus le cas de notre ami Joël qui est dans un état.
C'est vrai. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de Jojo, à mon avis, toute la saison.
Il faut miser sur Tyrese Maxey, c'est ça le franchise player des Sixers.
Et pas Paul George, alors.
Non.
Ah, d'accord.
Non plus.
Ok, messieurs, le temps passe, alors il est temps de faire notre rubrique Money Time Gift. Je me suis bien pris la tête pour vous sortir un jingle aussi beau, franchement. Voilà, c'est l'heure de tirer au sort les participants. Et pour tirer au sort les participants, ben forcément, il faut un petit roulement de tambour. Donc, qui a gagné la superbe chemise surcotée des Houston Rockets? Eh bien, c'est
Félimène.
C'est Fabrice qui a gagné la magnifique surchemise. Bravo Fabrice, en tout cas tu pourras venir la récupérer, on l'applaudit. Tu pourras venir la récupérer à la prochaine émission de Money Time.
Ah, faut venir la récupérer.
Il faut venir la récupérer. Bah oui, je fais pas la livraison à domicile, donc on te contactera sur Facebook.
Donc Money Time, chercher. Tous les premiers mercredis et...
Et troisième mercredi
voilà, de chaque mois.
Si maintenant il suit Fabrice. Facebook, Fabrice, il peut.
Rendez-vous à Compiègne.
Voilà, exactement. Il nous reste, pour faire la transition, la rubrique basket avec Rémi. C'est parti, on lui lance son jingle, Rémi. C'est l'heure donc d'introduire la rubrique consacrée à un élément devenu indissociable de la culture basket, la sneaker, ou chaussure de sport de collection pour plaire à Bernard Pivot. Bah oui, c'est mieux. Donc Rémi, aujourd'hui tu vas nous parler de la mythique paire de chaussures d'Hakim, The Dream Olajuwon.
Salut à tous, micro.
Oui, c'est mieux que le micro.
C'est mieux avec le micro.
Ça marche. On ouvre le micro. Attends,
comme ça c'est fait.
Voilà.
Salut à tous, ouais. Donc la dernière fois on avait parlé des Jordan 1.
Ouais, tout à fait. Pour la spéciale Jordan.
Voilà, 1984. Et en 1984, un autre joueur qui a été drafté numéro 1 de la draft en plus. Ouais, donc tu l'as dit, Hakim Olajuwon, drafté à Houston. Et à l'époque, il y avait Magic Johnson, ouais, et Larry Bird qui jouaient avec des Converse. Nike avait parié sur un rookie du nom de Michael Jordan. Et une marque qu'on connaît peu, voire pas,
ouais,
en tout cas en France on ne connaît pas, Etonic. Etonic a misé sur Hakim Olajuwon.
C'est-à-dire qu'ils ont sorti ce qu'on appelle un modèle signature.
C'est ça.
Donc il faut savoir qu'Hakim Olajuwon portait des Ella Gear pour commencer, il est unstoppable.
C'est ça.
Et en fait, visiblement, voilà, Etonic, qui était... Tu sais dans quoi
alors, il était spécialisé, Etonic? Alors Etonic, déjà, il faut dire une chose. Etonic, c'est la première marque de sport au monde. Première marque de sport au monde.
Tu m'apprends un truc.
Ouais, c'est la toute première marque de sport au monde et aussi la première marque de chaussures de sport. En fait, Etonic, à la base, ils étaient spécialisés dans tout ce qui était équipement militaire, d'accord, vêtements militaires et donc du coup les bottes ou les chaussures militaires. Voilà. Ensuite,
tu as déjà essayé avec des bottes au basket.
Ça ressemble, hein.
Ouais.
Ça ressemble.
Ouais.
Et ensuite, ils se sont spécialisés vers le sport, plutôt vers le running, tout ce qui est course.
J'ai entendu dire golf aussi.
Ouais, exact. Le golf aussi, ouais, exact. Ouais, le golf, ouais. Et quand au début des années 80, NBA, Etonic a misé sur Hakim Olajuwon parce que numéro 1 de la draft. Alors étonnant que Nike n'ait pas été chercher.
Parce que c'était quand même un joueur déjà super.
Après, faut dire que Nike n'avait pas vraiment la cote à l'époque. Hein. Nike, c'était le.
C'est vrai, t'en avais parlé pour Jordan. Pour
dire à l'époque, c'était Adidas, Converse.
Ouais.
Voilà. Et Etonic a misé sur Hakim Olajuwon. Alors ça n'a pas trop fonctionné. Ils ont fait 5 saisons ensemble. Hein. Mais bon, voilà, quoi, ils se sont fait balayer
qu'est-ce qu'elles ont comme particularité
C'est un petit peu comme les Jordan 1, en fait. Ouais. Alors moi, je les ai au pied, hein, forcément.
Il est venu avec
Exactement.
Bon, alors déjà, l'analyse de mes collègues, là, ont remarqué quand même les couleurs.
Exactement, voilà, les couleurs de Houston.
Des Houston Rockets.
Donc il y a du rouge, il y a du jaune, ouais. du blanc. Voilà. Et la particularité, en fait, c'est un système qu'on appelle Evacution. C'est avant le système R.
Ouais.
Tu vois, c'est un système d'amorti. Bon, après, les détails techniques, moi, je ne les connais pas.
Ouais, mais bon.
Mais bon, c'est comme les Jordan 1. Hein, là, si tu les portes aujourd'hui pour jouer, tu te fais un peu mal quand même.
Elles sont lourdes ?
Elles sont pas lourdes, mais tu sens pas le côté, tu sais, molletonné des chaussures d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, mais bon, voilà, quoi. Ça a son confort. Après, ça a été fait surtout pour protéger les chevilles, parce qu'à l'époque, il fallait jouer. Enfin, quoique.
Elles sont montantes. Hein. Les baskets, on les voit pas, mais si.
Elles sont vraiment montantes et protègent vraiment les chevilles quand on les serre. Et c'était essentiel parce que bon, le basket étant un sport où tu sautes, forcément, suicide les chevilles. Donc voilà. Et voilà, 1984. Donc étonné qu'une marque a été créée en 1876 quand même dans le Massachusetts. C'est ça, Massachusetts.
Ouais.
Voilà.
C'est là où a grandi Bruno, puisqu'il est fan des Celtics. Ouais.
Et donc étonné que t'en trouves pas quasiment, enfin t'en trouves en France hein, dans les magasins spécialisés.
C'est vraiment collector, c'est des
pompes. Ah moi c'est pas la marque. J'ai deux paires et je les garde précieusement parce que plus tard. Ça va vouloir s'en cacher, hein.
Ouais, bien sûr.
C'est comme ça.
Il paraît qu'il y a un gros business de la sneakers.
Ouais, sneakers aujourd'hui c'est un truc de ouf quoi. Bah de toute façon on les voit avec les Jordan. Hein.
Il y a un truc intéressant sur les chaussures d'Hakeem Olajuwon, vous connaissez cette anecdote, c'est qu'en fait Hakeem Olajuwon, au moment où Jordan sort aussi ses baskets, lui il a en tête, il y a un drame qui se passe, c'est-à-dire que Jordan, même lui il a déploré, hein, il en a parlé, il y a un gosse qui va se faire assassiner pour sa paire de Jordan aux États-Unis.
J'en ai entendu parler, ouais.
Et donc en fait Jordan est vraiment très choqué. Olajuwon, qui est un mec très humain, hein, c'est un type très bien, Olajuwon, il vit ce fait divers entre guillemets comme une espèce de prise de conscience en tout cas sur la vanité, la vacuité un petit peu de cet engouement pour les baskets, et il va demander à Spalding, il va s'associer avec Spalding, il va monter en fait un partenariat avec Spalding pour vendre une basket à moins de $35. Mmh. Alors sa paire de Spalding qui était connue pour les ballons NBA, en fait elle va pas super marcher, mais la démarche, je trouve qu'elle est noble quand même.
Bien sûr.
Proposer une paire de à moins de $35 pour les gamins pour qu'ils puissent porter des chaussures, je sais pas si elle est collector aussi, elle s'appelle la Hakeem the Dream.
Yeah. C'est celle-là, hein.
Ouais,
voilà. C'est la
Etonic Hakeem.
Etonic Hakeem, Hakeem the Dream. Ouais. Sur la languette. Sur la languette.
Ouais, Hakeem the
Dream,
ouais. Voilà. T'inquiète. Ok, super. Merci pour cette leçon d'histoire sur cette rubrique sneakers. Yeah. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec démonter ? Il est en train de démonter le plateau, Mehdi. Il va être l'heure de vous laisser. Du coup, la prochaine émission c'est le 4 décembre. En tout cas, merci messieurs pour votre participation. On n'a pas eu le temps de faire le buzzer beater. On aura l'occasion de l'évoquer. La question de la NBA, est-ce que c'était mieux avant ? On a évoqué certains points sur cette frénésie du shoot à 3 points. On vous laisse juger. C'est vrai que nous, avec notre regard de vieux con, on a parfois tendance à regarder la NBA d'actuelle en se disant que c'était mieux avant, mais je voudrais juste préciser quand même que à l'époque où on regardait nous la NBA ados, à 14-15 ans, il n'y avait pas, on la voyait pas tant que ça la NBA en fait. Hein.
C'est le manque qui faisait.
C'est le manque qui créait un petit peu l'envie. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui il y a peut-être une distance à trouver entre la surmédiatisation justement peut-être de la NBA. On parlait justement de l'intérêt de ces matchs qui n'ont pas toujours quoi. Mais à cette époque-là, les moves de Ja Morant n'existaient pas. voir un maillot, enfin un Français porter un maillot NBA dans les années 90, bah, ça avait autant de chances de se produire qu'assister à un combat Michel Drucker, Cyril Gane.
Petite pensée à Tariq Abdelouad. Hein.
Et qui fut le premier.
Jérôme Moïso.
Exactement. Donc en tout cas, on termine sur ça.
Loin,
on peut interagir avec vous si vous êtes intéressé sur la page Facebook de l'émission. En tout cas, on laisse la place maintenant à Rémi et à José je vais balancer ton blaze pour la transition. C'est parti.
On fait une dédicace quand même, non?
Non.
Moi, je fais une dédicace à MSH, à Rémi, Jory et François. Bisous.
Ouais. Et il y a Cyril aussi. Alors, on a une pensée à Cyril qui est au steak en ce moment, qui est en train de faire son périple californien.
Voir Golden State.
Le match contre Golden State. On pense bien à lui, on l'embrasse, on lui claque une bise. Peut-être qu'il nous écoute par-delà les océans. Et puis, vous avez des coucous à faire rapidement, les gars?
Merci papa maman qui surveille mes filles pendant que je suis ici.
Voilà. Bon, moi je fais une bise à ma petite femme et à Mathéo et Julien. Ciao à tous, à bientôt.
Salut les potos.
Salut.